France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Vladimir Jankélévitch, le virtuose. C'est notre série de cette semaine. Ce matin, le temps, selon Jankélévitch, qui disait notamment « La grâce de la seconde fois nous est refusée ». Le temps, le fait que le futur devienne présent, puis passé, si vite que d'une certaine façon nous vivons cette situation sans pouvoir parfaitement la penser, puisque justement nous sommes immergés dans cela même que nous essayons de penser, tout cela préoccupait beaucoup Jankélévitch. La question du temps est grosse de multiples questions. Elle est peut-être la question, lovée dans toutes les autres. Le temps ouvre sur l'irrévocable, sur l'ennui comme sur la griserie de l'aventure, sur l'angoisse de la mort. Le temps est la cause des remords et des regrets. Il est au centre du problème du pardon. Et puis la question du temps engage aussi, dans le cas de Jankélévitch, son rapport à Henri Bergson, penseur de la durée notamment. Bergson, un maître important pour Jankélévitch, il a consacré à la pensée bergsonienne son premier livre, paru en 1931.
Personne ne pense le temps. Et alors, c'est ce que j'exprime en disant que le temps n'est jamais le complément direct du verbe penser. On ne pense pas le temps. Mais on pense à quelque chose dans le temps, n'est-ce pas ? Mais essayez de penser le temps. Moi, je pense au temps de cet entretien, par exemple, et nous pensons à quelque chose dans le temps, mais nous ne pensons jamais le temps, parce que personne ne peut penser le temps. Mais c'est la dimension selon laquelle nous pensons, parce qu'au moment où je pense à quelque chose dans le temps, je pense déjà temporellement, n'est-ce pas ? Le temps me précède, je suis déjà dans le temps. Je ne peux pas le penser, puisque je suis entièrement dedans. Et en ce moment même, ou si j'essayais de penser le temps pendant lequel nous entretenons, eh bien, le temps me précéderait, il m'a déjà devancé, il est déjà là. Donc je peux pas le saisir, la pensée ne peut pas le prévenir et le saisir.
Ainsi parlait Vladimir Jankélévitch le 6 décembre 1971 sur France Culture. Le temps impensable mais vécu est pourtant pensé autant que faire se peut par Jankélévitch. Nous allons voir comment. Bonjour Robert Maggiori.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie, vous avez longtemps enseigné en classe de terminale à Fontainebleau. Depuis une trentaine d'années, vous êtes aussi critique à Libération. Vous avez écrit des centaines d'articles sur les philosophes et leurs œuvres. Certains se retrouvent dans un magnifique volume paru chez Vrin. Vous avez connu personnellement Vladimir Jankélévitch, nous en avons déjà parlé hier puisque vous étiez déjà avec nous en studio. Vous avez évoqué Jankélévitch, l'enseignant, le musicien des mots, le subtil, et aussi le cadeau qu'il vous a fait en vous dédiant, à vous son disciple et ami, son livre de 1980, Le je ne sais quoi et le presque rien, sous-titre La manière et l'occasion. Et bonjour Frédéric Worms.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Ce matin, Frédéric Worms, vous êtes notre invité. C'est pourquoi votre chronique du jour, habituellement diffusée en fin d'émission, sera disponible seulement sous forme numérique sur l'appli Radio France et sur notre site. Vous êtes professeur de philosophie à l'École Normale Supérieure, école que vous dirigez désormais depuis quelques années. Vous avez tout particulièrement travailler la philosophie française du XXe siècle et vous avez notamment consacré plusieurs travaux à la pensée d'Henri Bergson. Vos travaux sont nombreux, je me permets de renvoyer nos auditeurs et auditrices vers notre site pour les références. Alors écoutons encore un peu Vladimir Jankélévitch si vous le voulez bien. D'abord un texte de lui, lu par notre réalisateur Nicolas Berger, texte extrait de son livre de 1974, L'irréversible et la nostalgie. Puis, ce sera enchaîné, une nouvelle archive de Jankélévitch du 19 décembre 1971 sur France Culture.
L'irréversibilité n'est pas un caractère du temps parmi d'autres caractères. Il est la temporalité même du temps. Et le verbe « être » est pris ici au sens ontologique et non pas au sens copulatif. C'est-à-dire que l'irréversibilité définit le tout et l'essence de la temporalité, et la temporalité seule. En d'autres termes, il n'y a pas de temporalité qui ne soit irréversible, et pas d'irréversibilité pure qui ne soit temporelle. La réciprocité est parfaite. La temporalité ne se conçoit qu'irréversible. Si le fuyard de la futurition ne fût-ce qu'une fraction de seconde revenait sur ses pas, ou se mettait à lambiner, le temps ne serait plus le temps. la temporalité n'est pas un simple prédicat de l'existence humaine, car ce serait supposer que l'être de l'homme, au moins en droit, peut être intemporel tout en restant humain. Le devenir n'est pas sa manière d'être, il est son être lui-même. Le temps n'est pas son mode d'existence, il est sa seule substantialité. L'homme est tout entier devenir, et n'est que cela. Et comme le devenir lui-même est toute irréversibilité, il s'ensuit que l'homme entier est tout entier irréversibilité. L'homme est un irréversible en chair et en os. L'homme est un irréversible incarné. Tout son être consiste à devenir, c'est-à-dire à être en n'étant pas. Et par surcroît, il devient, advient, survient, quelquefois même se souvient, mais ne revient jamais. Car s'il pouvait revenir, l'aller et le retour feraient de son être une chose. Autrement dit, on ne peut concevoir un temps qui serait réversible et qui demeurerait cependant temporel.
C'est le fait que le passé est passé lui donne une valeur indépendamment de ce que vous avez vécu au cours de ce passé. J'appelle ça la passéité du passé. Avoir été, le fait d'avoir été. J'ai vécu dans telle ville qui n'avait aucun charme quand elle était présente, mais il suffit qu'elle soit passée pour qu'elle en ait un. Mais tout le monde a vécu ça, le sait, n'est-ce pas ? Le temps dégage le charme des choses qui n'en ont pas. Et c'est pourquoi le temps est poète. Il n'y a que les poètes et les peintres qui soient capables de connaître dans l'instant, dans le présent, le charme du présent. Par exemple, Aubervilliers. Pas un mur à la Courneuve, ça n'a aucun charme dans le présent. Oui, eh bien, un peintre est capable, enfin, Utrillo peignait un réverbère au coin d'un mur, dans une banlieue sordide, et ça fait rêver de voir souvent ces banlieues. Eh bien, ce que les poètes et les peintres savent faire dans le présent, nous, qui ne sommes pas ni peintres ni poètes, le temps le fait pour nous. Le temps est le poète pour nous, grâce à la mélancolie des choses en aller, des choses qui ne seront plus. Le temps est le poète des gens qui ne sont pas poètes.
Vous êtes ému, je vois, Robert Madiuri, d'entendre Vladimir Jankélévitch.
Bah oui,
du coup, je vous laisse commenter. J'avais une question, mais elle viendra après.
Non, mais la voix de Jankélévitch, l'impression que c'est la pensée même, quoi.
Oui.
Et que c'est la musique même. La manière dont il dit les choses, on peut lire un texte d'une manière parfaite, et d'ailleurs le premier texte a été lu d'une manière parfaite, mais c'est pas Jankélévitch. Parce que Jankélévitch, il y a le ton, et le ton, il oscille toujours entre l'ironie et le sérieux. Il faut très peu de choses pour que ça rigole. Et en plus, il prend des exemples qui vous laissent pantois. Il dit « La Courneuve, Gennevilliers ».
Oui.
Mais pourquoi il dit ça? Et quand il commençait à parler du temps, il s'excitait comme Plotin qui se soulevait de terre quand il était en extase. Il disait « le temps, mais enfin, le temps, comment parler du temps puisqu'il nous faut du temps pour parler ?» Et déjà de dire ça, et oui, ben, comment parler du temps puisqu'il nous faut du temps pour parler. On est déjà dans le paradoxe du temps, dans le mystère des mystères. Ah, c'est le mystère des mystères. Mais sans le temps, nous ne serons rien. Avec le temps, nous sommes presque rien, et bientôt, nous ne serons plus. Il parlait comme ça, puis ben, avec une espèce d'animation terrible. Ce qui fait que quand il dit que le temps rend poète ceux qui ne sont pas, c'est quand même quelque chose. Il faut la trouver, la formule, quoi.
Frédéric Vance, vous aussi, vous voulez commenter librement?
Bah, moi aussi,
je vous poserai des questions après.
Moi aussi, dès que j'entends la voix de Jankélévitch, je suis en philosophie. Mais pas seulement, c'est pas de la philosophie dont il est question, c'est une pensée en train de se déplier. Et en même temps, pour ajouter un mot à ce que dit très justement Robert, mais c'est l'idée que quand même, dans cette musique, il y a du concept, il y a des thèses très précises en fait. Il y a des thèses extrêmement précises qui sont justement l'idée que le temps, on n'arrive pas à le penser, parce que comme chez lui, comme chez Bergson, dans la première citation, avant la toute première fois qu'on a entendu sa voix, il critique la pensée, qui n'arrive pas à penser le temps. Pourquoi ? Parce que la pensée, elle est dans l'instant, et donc on peut se représenter le passé. Il est parti, mais ma pensée peut se le représenter. Donc c'est contradictoire. Donc il y a une contradiction, mais la force de Jankélévitch, je trouve, c'est qu'il y a une réalité du temps. Le temps est réel. Il est mystérieux, mais réel. Quelque chose qui est passé, disparu, mort, c'est définitif. C'est pour de vrai. Donc il y a à la fois cette idée de notre pensée n'y arrive pas, mais en même temps c'est la réalité de notre condition, c'est très sérieux le temps, ça conduit à l'irréversible mais aussi à l'imprescriptible, au remords. Le remords, on en parlera peut-être, c'est quand même la réalité de la faute que j'ai commise. Je peux plus la rattraper, c'est fait. J'ai peut-être fait une bêtise, peut-être que je vais chercher des excuses que Jean Kelevitch détestait. L'excuse, c'est le prétexte rationnel. Le pardon, c'est la grâce d'admettre la réalité de ce que j'ai fait. Mais en tout cas, voilà, c'est très sérieux, c'est même très grave, en fait. Mais cette musique, d'enrober la gravité de ce qu'il dit par rapport à toute une pensée qui est en surface, effectivement, il l'a fait aussi passer par ce charme, cette ironie, cette poésie de Jean Kelevitch. C'est un très grand poète philosophe. Ça lui a nuit, parce que beaucoup de lecteurs en France aujourd'hui pensent que c'est seulement un écrivain. Et c'est les deux, évidemment, comme tous les grands.
Vous parlez de l'irrévocable, on va parler de cela maintenant, y compris sur son versant négatif que vous avez déjà abordé. Alors, comme hier, je commence par le négatif, pardonnez-moi. Je sais que le temps, c'est aussi la joie. Mais comme pour l'amour, je pense qu'il y a aussi de l'angoisse chez Jean Kelevitch. Robert Maggiori, est-ce que le temps, ce n'est pas le lieu, si j'ose dire, si on l'occupe, soit de la nostalgie, soit de la mauvaise conscience?
Oui, on peut répondre ça, mais pardon, il faut d'abord préciser un certain nombre de choses, parce que sinon on va rien comprendre à ce qu'on va dire, parce que quand on parle du temps, il faut dire de quel temps on parle et comment on peut en parler. J'ai écrit une petite histoire débile que je vais vous lire tout de suite.
Je vous en prie.
Non, c'est une phrase, hein, c'est une phrase. Je suis à Palerme, un dimanche 1er mai, le soleil brille. Et je flâne dans le jardin botanique en attendant Rosalie, dont le taxi est bloqué par une manifestation et n'arrive que dans trois quarts d'heure. Oui, phrase débile que j'ai écrite en venant ici. Mais vous constatez qu'il y a tous les temps dedans. Qu'il y a le temps psychologique de l'attente, il y a le temps sacré du dimanche, le temps des verbes, il y a le temps social de la manifestation, le temps politique du 1er mai, le temps biologique des arbres, le temps des montres, le temps astronomique du soleil.
Et l'amour.
Parce que Rosalie vous l'aimez.
Parce que, admettons que Rosalie soit quelqu'un de proche. Voilà, tant qu'à faire, le temps de l'amour. Donc, dans tout cela, il y a un mot qui nous saisit, c'est peut-être celui de l'attente.
Oui.
Parce que l'attente, ça, vous voyez, les choses, ni les arbres, ni quiconque attend. Donc, l'attente... Nicolas Grimaldi en faisait la structure principale de la conscience. Et pour comprendre cela, il faut aussi immédiatement enlever de la tête de ceux qui nous écoutent l'idée, comment dirais-je, trop simple, qui fait que quand on dessine le temps, on fait une flèche et on met à gauche le passé, le présent, le futur, comme si le passé était avant le futur. Donc on entend bien que les choses adviennent, sont à venir, elles adviennent, se présentent à moi et passent. Donc quand elles se présentent à moi, c'est là que les choses se jouent, parce qu'elles peuvent se présenter de telle ou telle manière. Parfois, chacun voit bien que ça ne passe pas, que le temps ne passe pas. Parfois, tout le monde sait que le temps passe trop vite. Jean Kelevitch disait, si je suis avec la personne aimée et que je passe 3 heures, en sortant, je dis pas, j'ai perdu 2 heures ou 3 heures. Il dit, j'ai gagné 3 heures sur les 3 heures, donc j'en ai consommé 6, si je puis dire. Alors que parfois, dans les situations d'ennui, oui, le temps, il passe pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le temps ne passe pas? Ça veut dire que ma conscience est incapable de saisir toutes les propositions qui sont à venir, que me fait l'avenir. Parce que si je suis affalé sur mon fauteuil à m'ennuyer, il suffirait que je me lève, que je prenne un livre, que j'écoute Fats Domino, je sais pas, ou que je sorte dans un jardin pour qu'il n'y ait plus de l'ennui. Mais, donc, l'ennui, ça veut dire que je ne sais pas monnayer la richesse des propositions que me fait l'avenir. Et ensuite, il y a le rapport au passé. Je peux penser au passé en me souvenant, et là, on va entrer dans les questions qu'on va aborder, j'espère, tout à l'heure, celle du regret, du remords, de la nostalgie, du mal que j'ai fait, etc., etc. Donc il faut bien préciser que le temps, il va de l'avenir vers le passé, et que nous parlons du temps psychologie. Enfin, nous parlons du temps qui est au présent. Donc, parler
et les événements
Augustin,
que nous attendons, en effet,
le présent
vont
du futur, le présent du présent et le présent du passé.
Et pour vous, Frédéric Worms, dans cette très riche réflexion sur le temps, quel est le point qui est le plus important, celui avec lequel vous philosophez le plus et que vous voudriez immédiatement dire à votre tour aux personnes qui nous écoutent?
Justement, c'est ce qui me venait en écoutant Robert Maggiore, c'est que moi, là où j'ai un point, tout ce qui a été dit est très juste et très profond, mais en même temps, il y a un point où je résiste, et c'est toujours le point de résistance qui nous dit à quoi nous tenons vraiment, c'est l'idée de repartir des paradoxes du temps pour une conscience qui serait en quelque sorte spectatrice du temps. Et c'est vrai que c'est un mystère, le temps. Jean Kelevitch a beaucoup repris la phrase de Saint-Augustin, « Quand je suis dedans, c'est évident, quand j'y pense, c'est mystérieux ». Mais justement, le temps n'est pas un spectacle. Ce que Jean Kelevitch a repris de Bergson, c'est l'idée de la réalité du temps. Et cette réalité, elle me fait souffrir ou me rend joyeux, mais elle n'est pas un spectacle, elle est un mystère dès que j'y réfléchis. Mais sinon, quand j'y réfléchis pas, c'est pas du tout un mystère, c'est une évidence. Et par exemple, dans le phénomène de l'attente, c'est à la fois, on peut dire, quand c'est pas grave, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que l'attente, l'avenir, le passé, etc. » En réalité, l'attente, c'est une expérience de la réalité, non seulement de mon temps, mais de mon écart avec le temps du monde. Il y a le texte célèbre de Bergson, dont Jean Kelevitch s'inspire très profondément, sur la fonte du sucre dans le café, dans le verre d'eau au Collège de France. Oui. Il faut attendre que le sucre fonde. Parce que le sucre a son temps de fusion. Et moi, je suis impatient. Et donc, l'attente, c'est pas un spectacle, c'est un contraste douloureux, mais joyeux aussi, entre l'idée que le sucre a sa temporalité, qui est la réalité du monde, de la durée du monde, et que la durée de ma conscience est en écart avec elle. Et donc, l'attente, qui semble être un spectacle quand tout va bien, j'attends un bus, quand c'est pas trop pressé, ça va. Quand c'est une urgence, quand j'attends une ambulance, quand j'attends un amour, quand j'attends un rendez-vous important, quand j'attends un résultat, quand j'attends quelque chose de grave, c'est plus du tout un spectacle. Donc chez Jean Kelevitch, ce qui est très frappant, c'est en effet cette réalité du temps, et je suis entièrement d'accord pour partir du négatif, parce que c'est ce qu'il ajoute à Bergson. Bergson prouve le temps par la nouveauté. Ce qui n'était pas là, advient, et là, c'est la réalité du temps. Mais pour Jean Kelevitch, c'est toujours aussi par le négatif. Jean Val, d'ailleurs, qui est aussi... Jean Val et Jean Kelevitch étaient deux des exécuteurs testamentaires de Bergson. Jean Val disait, Jean Kelevitch, c'est Bergson plus zéro. C'est Bergson plus le négatif. Il a toujours
ajouté...
Alors,
si ça vous ennuie pas, je voudrais qu'on ait un vrai moment sur le rapport à Bergson, qui
est
important.
Voilà, je ne veux pas
juste
en parler tout de suite,
mais par exemple,
Jean Kelevitch écrit son livre sur l'ennui,
Il l'envoie à Bergson, oui.
Et Bergson lui dit « Merci pour votre beau livre sur une expérience que je n'ai pourtant jamais éprouvée et qui m'apprend beaucoup sur une... » Mais pourquoi ? Parce que, justement, l'ennui aussi, c'est pas du tout... c'est peut paraître être un moment de contemplation gratuite du temps vide qui passe pour rien, mais en fait, c'est pas ça. L'ennui réel, c'est une souffrance.
L'instant qui dure un peu, comme le sucre qui fond dans le café...
L'instant dure. L'instant... Presque pas.
Mais voilà, il y a un paradoxe, c'est que parfois, on a l'impression... Robert Maggiore, que l'instant a sa durée propre.
Oui, mais...
Et qu'il, alors, je voudrais, avant d'aller vers Bergson, enfin pour comprendre un des enjeux, peut-être avec Robert Maggiore, il y a des termes que, personnellement, je trouve un peu difficiles, et comme vous m'expliquez bien les choses difficiles, je me tourne vers vous, Robert Maggiore. La notion d'intervalle, par exemple, qui est très importante chez Jean Kelevitch, parce que psychologiquement, nous mettons des balises autour du temps. Nous attendons une chose comme vous attendez Rosalie à Palerme, dans le texte que vous donniez. Est-ce que Jean Kelevitch nous dit de lâcher ces balises, de maîtriser moins, de vivre plus pleinement l'instant qui pourrait nous ennuyer ou nous angoisser, de laisser faire? Ou bien, nous dit-il, d'introduire de la réflexivité sur ce qui se passe en nous quand le temps passe?
En fait, la réponse, elle est simple. Il faut, de chaque instant qui est destiné à passer et qui a une réalité qui n'est pas rien, qui est presque rien, il faut que je fasse un commencement. C'est ça tout le secret de Jean Kelevitch.
Entendu.
Que je,
c'est très
que
clair,
ce soit,
ça, oui.
Quand Jean Kelevitch dit cette phrase magnifique qu'on pourrait prendre, et Frédéric le disait tout à l'heure, parce que Jean Kelevitch, parfois on dit, oui, il écrit bien, c'est un poète, etc. Mais quand il dit, ne ratez pas votre matinée de printemps. Il faut faire attention, bien sûr, à matinée, mais il faut faire attention à printemps. C'est-à-dire le premier temps. Est-ce que je suis capable de faire de l'instant qui passe un printemps? C'est-à-dire un temps que je vais faire commencer, que je vais faire commencer et qui pourra inaugurer une aventure. Pas l'aventure de l'aventurier, hein, l'aventure de l'aventureux. Parce que Jean-Claude distingue effectivement les deux, parce que l'aventurier, d'ailleurs, il a des termes très méchants, c'est le bourgeois qui veut s'enrichir ou je sais pas quoi. L'aventurier, c'est celui qui, effectivement, cherche à obtenir des choses de façon stratégique, qui lui rapporte. Ça peut lui rapporter en argent, ça peut lui rapporter en gloire, ça peut lui rapporter en talent, enfin, ce que vous voudrez, mais ça peut lui... Donc, c'est tactique, c'est stratégique.
Oui.
Alors que l'aventure de l'aventureux est une sorte, je dis pas Paris, parce que le terme de Paris, après, ça paraît trop pascalien, c'est, il m'engage à une création, à une futurition. Mm-hmm. C'est-à-dire à faire en sorte, que je sois le printemps de mon temps, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, toutes les occasions qui se présentent, il est vrai que ce sont des occasions réelles. Frédéric a raison d'assigner le terme de réalité. D'ailleurs, quand Jean Kelevitch parle de la mort, moi, ça m'avait saisi, mais en tant que jeune étudiant à l'époque, la mort, vous vous rasez et vous constatez un poil blanc. Ben, la mort est là. Oui, c'est, ça commence là. Ça commence par une ride, ça commence par une douleur, ça commence, mais la mort est là. Donc, il y a cette nécessité, effectivement, de pouvoir faire de chaque instant qui se présente à moi une aventure, c'est-à-dire une action dirigée, commencement, un printemps. Parce que le printemps, c'est pas simplement une étiquette. Le printemps, ça veut dire que ça va pousser, ça va fleurir, les arbres vont s'entrecroiser, vont s'échanger. Ça, c'est l'aventure.
Et on suppose une durée.
Et le sérieux, pour terminer, puisque comme ça, on aura fait les trois.
Exactement.
Le sérieux, lui aussi, tente d'aller vers le futur, mais en prenant ce qu'il y a de mieux dans chaque événement et en les agençant de façon plus ou moins rationnelle. Ça, c'est l'esprit de sérieux. Il n'est pas critiquable, l'esprit de sérieux, mais il n'a rien d'aventureux. Enfin, il est critiquable aussi, mais on n'a peut-être pas le temps. Mais ça, c'est l'esprit de sérieux. Celui qui dispose, c'est-à-dire qui pose ses pas là où ça tient, où la terre est la plus immeuble, alors que l'aventureux, ben, il peut parfois mettre les pieds là où la terre est un petit peu meuble, mais c'est lui qui est à l'initiative de cette action.
Donc s'il faut penser notre présent comme un instant de nouveauté, de commencement, j'en viens au problème du rapport à Bergson. Laure Barrias, philosophe que vous connaissez très bien, qui hélas ne pourra pas venir dans notre série de cette semaine sur Jean Kelevitch, mais qui connaît parfaitement son œuvre, écrit qu'il est certes indéniable, je la cite, que la figure de Bergson a un privilège inégalé dans les références philosophiques de Jean Kelevitch, mais, dit-elle, un paradoxe se présente immédiatement. Où est passée la durée? La durée chère à Bergson. Est-ce que quelque chose chez Jean Kelevitch ne tend pas à dépasser la durée et à penser le présent tout le temps comme un instant et pas comme une durée, comme un commencement, comme un temps du commencement et pas comme une durée?
Alors, merci de citer Laure Barrias dont la thèse sur Jean Kelevitch et d'autres était très importante sur l'idée que la morale, notamment chez Jean Kelevitch, est d'essence temporelle, que le temps n'est pas seulement un aspect de la morale, mais le tout de la morale. Il faut agir ici et maintenant. Et si vous voulez agir demain ou réfléchir sur les actes du passé, vous n'êtes pas sujet de la morale. Donc, elle a montré ça d'une manière déterminante, avec aussi deux autres figures du cœur du XXe siècle. Le point commun entre Jean Kelevitch et Bergson, malgré leurs différences majeures sur l'instant, c'est la réalité du temps, justement. C'est-à-dire contre les pensées qui spatialise le temps, qui diminue la réalité de notre vie. Et Jean Kelevitch reprend cette grande thèse de Bergson, n'abandonnera jamais Bergson, mais lui adresse aussi une forme de critique, puisque la réalité du temps n'est pas seulement dans sa continuité magique, en quelque sorte, qu'il reprend quand même, hein, attention, et puis il est musicien, mais dans, justement, cette coupure de l'instant. Pour Bergson, l'instant, c'est une fiction de notre esprit, en fait. C'est une notation, une intersection entre notre esprit et le flux du temps dont nous avons besoin pour agir. J'ai besoin de vous donner rendez-vous à 12h25. Mais 12h25, ça n'existe pas, parce qu'il y a 12h24, il y a 12h24-59, puis il y a le paradoxe de Zénon a découpé le temps en instant et nous l'a rendu impensable. Achille ne rattrapera jamais la tortue. Très bien, dit Jankélévitch. Mais en même temps, l'instant, c'est la réalité du temps. C'est-à-dire que là, le mot que je suis en train de dire, il est déjà parti et je peux plus le rattraper. Et surtout, l'instant, c'est pas seulement le petit poil blanc. L'instant fatal, l'instant de la mort, il prouve la réalité absolue du temps. Il y a un avant et un après. La réalité absolue du temps qui est prouvée par celle de l'instant. Et ce qui se passe, c'est que dans les années 30, il y a trois grands lecteurs de Bergson qui lui opposent la réalité de l'instant. Au fond, c'est Jankélévitch, Jean Val, avec sa thèse sur l'instant chez Descartes, qu'il dédie à Bergson, et Bachelard, avec l'intuition de l'instant, qui est un magnifique livre de 32. Et ils essayent de compléter Bergson en disant, au fond, Bergson a eu raison sur la durée, je pense qu'ils le disent tous, mais il a eu tort de faire de l'instant une fiction de notre esprit. En fait, le temps a deux faces. Il y a la création et la destruction. Il y a la durée et l'instant. Et donc, Jankélévitch a plutôt complété Bergson qu'il ne l'a abandonné. Et il l'a complété d'une manière, je trouve, déterminante, qui lui a permis aussi de faire franchir à Bergson le pas de l'existentialisme. Parce que des auteurs comme Sartre, comme Merleau-Ponty disaient, Bergson, c'est un réaliste de la conscience du temps, mais nous, nous sommes des consciences face au monde, etc. Jankélévitch dit oui, c'est vrai, mais ça
il
reste...
Il fait le lien entre Bergson et le devoir moral lequel nous plonge tout le temps le temps.
Exactement. Et donc, en fait, il le complète, il le critique. Dans un colloque, j'avais dit la double audace de Jankélévitch sur Bergson. Audace de le défendre, dans un moment où tout le monde le critique, et audace de le critiquer, peut-être plus radicalement encore que les critiques superficielles qui lui disent voilà. Bon. Donc il reprend. Pour lui, l'enjeu majeur, c'est comment comprendre que nous soyons réellement temporels. Et l'instant, bah, c'est ça. Là, nous parlons. Après, nous ne serons plus ensemble. Ça prouve la réalité du temps par ces coupures, ces déchirures. L'instant, c'est tragique. Autant que le miraculeux.
Alors, le tragique nous invite à parler plus directement de la question de la mort, que vous avez tous les deux évoqué d'emblée en lien avec le problème du temps. Je vous propose sur ce sujet où Jankélévitch m'apparaît parfois changeant, je ne vous cache pas, angoissé ou disons au contraire qu'il ne l'est jamais par la mort. Enfin, on va voir.
Peut-être pas être d'accord.
Écoutez, mais justement, il y a des choses contradictoires, troublantes dans ce que vous allez entendre. Une archive sur France Culture du 6 décembre 1971, suivie d'un texte extrait de son livre La mort de 1966.
Je n'ai jamais eu aucune angoisse de la mort, et si je l'avais eu, ce livre l'aurait dissipé, parce qu'il n'y a pas de meilleur remède à l'angoisse de la mort que de traiter la mort comme un problème, alors que justement elle n'en est pas entièrement de faire comme si vous étudiez le temps, n'importe quoi d'autre, c'est un problème philosophique, si bien que j'ai jamais moi pensé à la mort, à la mienne, quoi, à celle des proches, que pendant les nombreuses années que j'ai consacrées à ce livre, si vous voulez, je n'ai pas vécu la chose pendant que j'en faisais un problème. Et en un sens, c'est une thérapeutique. C'est bizarre à dire, mais c'est un peu une thérapeutique.
De même que la mort et l'immortalité sont l'une et l'autre à la fois impossibles et nécessaires, de même la mort est à la fois le moyen de vivre et l'empêchement de vivre. La mort est la condition de la vie, en tant qu'elle est paradoxalement la négation de cette vie. Cette négation positive, rappelons qu'elle est la fonction de la limite donnant une forme à ce qu'elle limite. Ou plus généralement encore, le non-être préside à l'instauration ou à la fondation de l'être. Telle est l'alternative fondamentale dans laquelle toutes les autres sont contenues. Le vivant n'est vivant qu'à condition d'être mortel. Et il est bien vrai que ce qui ne vit pas ne meurt pas, mais c'est parce que ce qui ne meurt pas ne vit pas. Un rocher ne meurt pas, une fleur en étoffe ne se fane jamais, mais aussi l'éternelle vie d'une fleur en étoffe ou d'un rocher, cette vie est une éternelle mort, car il n'y a de vivant que ce qui meurt. Sans la mort, la vie ne mériterait pas d'être vécue, maudite soit la vie sans mort. Une durée sempiternelle, une existence indéfiniment étirée serait à certains égards la forme la plus caractéristique de la damnation. Car c'est en enfer que les créatures sont condamnées à l'insomnie perpétuelle et au supplice de l'ennui sans fin. L'enfer, c'est l'impossibilité de mourir. Aussi nous faut-il choisir entre la plénitude dans la finitude ou l'éternité dans l'inexistence. La mort vitale est ce qui rend passionnante la vie mortelle.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de Vladimir Jankélévitch cette semaine, dans le cadre d'une série qui commémore le 40e anniversaire de sa mort. Je suis en compagnie de Frédéric Worms et de Robert Maggiori pour parler ce matin du rapport que Jankélévitch installait avec la question du temps, et derrière il y a la question de la mort. Alors moi je trouve que ce qu'on vient d'entendre est empreint de paradoxe. Il nous dit « Je n'ai pas d'angoisse de la mort » dans l'archive que nous avons entendue de 1971. « Je n'ai pas d'angoisse » et il finit en disant que ce qu'il écrit est quand même une thérapeutique. Bon, par ailleurs, il nous donne l'impression, en disant des phrases comme « La mort vitale est ce qui rend passionnante la vie elle-même », ça on le comprend. Mais qu'est-ce qu'il fait de l'angoisse de la mort? Voilà ma question. Qu'est-ce qu'il en fait, Robert Maggiori?
D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Jankélévitch, je l'ai dit hier, n'aime pas beaucoup le psychologique. Donc, mais des fois, il se laisse aller un petit peu. Là aussi, il est comme tout le monde. Il veut traiter la mort de point de vue philosophique. Mmh. Autrement dit, le fait de avoir peur, pas peur, chercher des remèdes, comment faire, etc., ça ne l'intéresse pas beaucoup. Ce qui l'intéresse, effectivement, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a entendu à l'instant même, maudite soit la vie sans mort. Maudite soit la vie sans mort. Autrement dit, cette fin du temps, la fin de mon temps, c'est ce qui permet l'action, c'est ce qui permet l'engagement dans la vie. Parce que si nous, il le disait tout le temps, si nous avions tout le temps, nous ne ferions rien du tout. Nous serions constamment dans l'oisiveté, puisqu'on aurait tout le temps de faire. Par conséquent, on ne ferait jamais.
Donc, on l'entend quand vous parlez, on l'entend.
Oui, la mort, elle est là, elle est l'injonction à vivre, c'est-à-dire à manifester des projets. S'il n'y avait pas de cette ora morts certa, ora incerta, l'heure, elle est incertaine, mais la mort est certaine. Heureusement qu'il y a ce butoir qui nous permet effectivement d'agir dans le temps comme si nous étions immortels, comme si nous étions immortels. Mais la mort, elle se manifeste par les autres formes. Le poil dont je parlais tout à l'heure de la barbe, le vieillissement de la peau, etc. De la même manière que je peux continuer à parler, à être enthousiaste, etc. Mais le café, il est froid quand je reprends le café. C'est-à-dire que l'autre temps, il est passé. Donc il y a cette... Et par conséquent, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est peut-être de parler de la perte, plutôt.
Oui.
C'est-à-dire de la perte que Jankélévitch situe à deux niveaux. Jadis et ailleurs. C'est-à-dire, jadis, c'est la perte de ce qui est passé. Et l'ailleurs, c'est la perte de quelque chose dans lequel j'étais, un pays natal ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la nostalgie, ça m'intéresse beaucoup. Parce que cette nostalgie, c'est la douleur que pose la proximité du lointain. Oui, le lointain ne provoque aucune nostalgie. Le lointain, il est lointain et il n'est rien pour moi, si je puis dire. Mais la proximité du lointain, oui. Et les pages de Jankélévitch sur la nostalgie sont extrêmement émouvantes, mais en même temps pleines de vitalité, quoi. Et je voudrais dire aussi, non pas pour corriger, parce que je n'ose pas parler devant Frédéric de Bergson, mais l'association Jankélévitch-Bergson, elle est un tout petit peu mutilante.
Ah.
En même temps que Jankélévitch lisait Bergson, il lisait Berdiaev, il lisait Soloviev, il lisait Tchestov, il lisait Saint-Jean de la Croix, il lisait Fénelon. Et très souvent, quand il parlait du temps de la mort de Bergson, il citait les steppes. Il citait la toundra, il citait cet ennui particulier qui s'appelle shkouka en russe, qui est le fait que lorsque vous êtes dans un train, vous voyez défiler les bois de bouleaux. Il n'y a que des bouleaux. Voilà, c'est cet ennui-là. Vous voyez, c'est... Donc l'influence de ces penseurs russes, de la même, qu'il y a la musique russe qui l'a aussi influencé, tempère un tout petit peu le rapport qu'il a seulement avec Bergson, qui est un rapport décisif à la fois pour lui et pour Bergson. Parce que la relecture que fait Jankélévitch de Bergson est quand même extrêmement éclairante sur beaucoup de points. Mais là, je laisserai Frédéric le dire, évidemment. Mais cette idée de perte, elle est intéressante. La perte, le jadis, ce qui ne reviendra jamais, et l'ailleurs, qui lui peut revenir, parce que l'ailleurs, c'est dans l'espace. Oui, Jean Piaget, quand il apprenait, quand il démontrait comment l'enfant croit, il montrait que l'enfant, du fait qu'il puisse aller de son lit à son berceau et puis retourner à son lit, il va comprendre bientôt que dans l'espace, il y a des allers-retours. Mais si sa main brise un verre ou brise un jouet, il va comprendre qu'il ne pourra pas faire, il ne pourra pas refaire le geste. Autrement dit, il y a des allers-retours dans l'espace, il n'y en a pas dans le temps. Il y a dans le temps, le jadis ne reviendra pas. L'ailleurs peut revenir, mais ce n'est pas le même qui revient.
Oui.
Alors, il y a quelque chose qu'il dit par rapport à la déception que provoque effectivement la nostalgie, mais on va peut-être en parler tout à l'heure.
Alors, il y a la perte, il y a la déception, il y a l'ailleurs du jadis. Frédéric Worms, je crois que pour vous, ce qui est au-delà du problème du rapport à Bergson, il me semble qu'on a, on a dit déjà beaucoup de choses. Enfin, vous pouvez évidemment revenir, mais je crois qu'on a, on a déjà, on a montré la complexité, en tout cas, de cette question. L'ailleurs du jadis, le problème, c'est que c'est une grave question morale pour Jean Kelevitch, et je pense pour vous aussi, Frédéric Worms.
Oui, c'est de nouveau la réalité du négatif, finalement sous sa forme temporelle ou spatiale. Et donc c'est la question de la morale qui est toujours une question d'arriver à distinguer le positif du négatif, à trouver des orientations normatives, comme on dit, dans le monde et dans la vie. Et justement, en effet, sans revenir sur Bergson, qui n'est en effet pas l'alpha et l'oméga du tout, c'est sur la mort, moi, que j'ai à la fois une relation d'admiration extrême envers la pensée de Jean Kelevitch et de surprise aussi et de volonté d'aller un tout petit peu plus loin. Parce que dans son livre sur la mort, qui est un chef-d'œuvre, hein, que j'ai mis beaucoup de temps à relire, à assumer, qui est un livre difficile et magique à la fois, qui est temporel, hein,
oui.
Puisqu'il y a l'avant, avec la réalité du temps, du vieillissement, il y a l'instant. Et puis l'après, mais c'est pas du tout linéaire, puisque l'après, lui, il dit, il n'y a rien à en dire, et il ne nous donne aucun espoir sur l'après, en fait. Hein. Donc l'après est totalement critique, l'instant est totalement fatidique, et l'avant est totalement réel. C'est un livre extraordinaire, avec des circonvolutions pour dire qu'on ne peut pas en dire grand-chose. Mais, et c'est là que finalement, je suis d'accord avec vous, Géraldine Mühlmann, sur ce que vous avez dit au début. Moi, ce qui me manque dans le livre sur la mort, c'est la lutte contre la mort. Et en effet, avec les paradoxes philosophiques qui nous disent « la mort nous prouve la réalité de notre temps, de notre vie, qui est comptée, la réalité de notre exigence morale, il faut agir maintenant parce qu'après, on ne sait pas ce qui peut se passer », la mort finalement renforce la réalité de notre vie. Mais du coup, on comprend moins pourquoi la vie doit s'opposer à la mort. Et la question de la thérapeutique et de la lutte contre
l'angoisse,
ce négatif.
Contre l'angoisse.
Plus même que l'angoisse, d'ailleurs. Jean Kelevitch a évidemment été confronté à la mort et même au meurtre de masse, et son grand geste moral et politique au cœur de la deuxième partie du XXe siècle sur l'imprescriptible, c'est de dire ces crimes ont eu lieu et de condamner les acteurs des crimes de guerre, notamment du génocide nazi. Mais dans son livre sur la mort, il n'en parle jamais, de même qu'il ne parle pas de la médecine. Et donc, d'une certaine façon, le paradoxe de la mort est moins vital qu'il n'y paraît dans cette page magnifique, hein, la mort vitale et ce qui rend passionnante la vie mortelle.
Je vous cache pas que je suis pas sûre de la comprendre complètement.
Elle est très très belle, très vraie, je pourrais l'expliquer sans fin. Mais justement, je pense que non, c'est la mort vitale rend passionnante la vie mortelle contre la mort. Et il faut évidemment accéder à la pensée de cet effet paradoxalement positif de la mort, mais sur le fond de la lutte contre... Jean Kelevitch, s'il était malade, s'il voyait un proche malade, il appelait le médecin. S'il voyait un criminel, il pensait que la loi devait l'interdire, etc. Donc c'est très paradoxal de voir comment, au fond, il ajoute peut-être à d'autres le négatif, mais il le sort de la vie, justement. Et à un moment donné, je pense qu'il faut réintroduire cette exigence de la morale vitale qui consiste à lutter contre toutes les formes de mort, y compris le meurtre. Et chez lui, c'est dissocié, en fait. C'est deux sujets différents, avec ce point commun du temps, cette sorte de tranchant absolument radical de sa pensée, qui n'est pas du tout une pensée gratuite, superficielle, imagée, littéraire au sens où certains critiquent ça. Au contraire, c'est d'autant plus magique littéraire qu'il y a un point tranchant absolument déterminant à dire sur la nostalgie, mais aussi la réalité du remords. Et le mon remords, c'est très bien, ça veut dire que je suis un être moral. Il y a des gens qui n'éprouvent aucun repentir. Ils ont même critiqué la repentance, alors que le repentir, c'est la réalité de la morale. Mais il y a aussi ceux qui n'avouent pas leurs crimes, ceux qui veulent être que la prescription, que le temps abolisse la réalité du meurtre. Ben non. Le temps n'abolit pas la réalité du meurtre. Et pour certains meurtres, il faut même déclarer l'imprescriptible, c'est-à-dire, au fond, voilà, assumer la réalité de ce qui s'est passé comme seule façon de le dépasser. Donc oui, il y a du tragique chez Jankélévitch, il y a aussi de la joie, évidemment. Et on reviendra peut-être sur les deux facettes de la surprise, en particulier sur lesquelles il y a eu des réflexions récentes.
Mais,
je pense...
mais là, on est sur le tragique et oui, je ne vais pas vous lâcher.
D'accord.
D'autant que
Mais bon, je viens de l'aggraver encore un coup.
Je voudrais bien que vous réagissiez à ce qui vient d'être dit, Robert Maggiori. À quel moment Jankélévitch pose la question morale à propos du temps ou ne la pose plus et réfléchit juste à la perte, c'est déjà beaucoup, c'est déjà très douloureux. Et il n'est pas impossible, je sais que vous avez envie de le faire, qu'à l'occasion de cette analyse que vous pourriez maintenant nous proposer par rapport à ce que vient de dire Frédéric Worms, Robert Maggiori, vous évoquiez un peu ce que vaut cette pensée pour nous présents.
Mm-hmm. Deux choses. D'abord, je suis ravi d'avoir entendu ce que j'ai entendu de la bouche de Frédéric, parce que je concorde entièrement. Mm. Qu'on manque, pour le dire en termes plus explicites, il manque à Jankélévitch la pensée du soin, qui est venue trop tard, peut-être, pour lui. Mais il aurait pu l'inventer lui-même, c'est-à-dire que le fait, il ne s'agit pas de lutter contre la mort, mais de donner plus de vie à la vie, ça, il aurait pu le penser, de donner plus de vie à la vie. D'ailleurs, Deleuze le tire un peu dans ce sens-là, dans les textes qu'il a. Quant à qu'est-ce qu'elle nous dit actuellement, cette pensée, j'espère avoir montré à quel point je tiens à cette pensée. Mais en même temps, il y a quelque chose qui m'accable. Parce que j'ai l'impression que, non pas dans la pensée de Jankélévitch. Ce qui m'accable, c'est que aujourd'hui, on a presque fermé les portes par lesquelles elle pourrait sortir dans la société. Évidemment, je remercie France Culture, on remercie tous ceux qui prennent des initiatives. C'est-à-dire, moi, en tant que vieux professeur, élève de Jankélévitch, je me dis, qu'est-ce qu'on a raté ?
Mais pourquoi dites-vous que ça n'est plus
présent ? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, toutes les idées qui circulent, qui sont dans la tête des gens, qui provoquent des mouvements sociaux, des mouvements politiques, sont des pensées qui n'ont jamais entendu ces pensées de la différence, de l'accueil.
De la perte.
Hier, on disait de la préférabilité d'autrui. Aujourd'hui, on a l'impression, Jankélévitch utilisait toujours ce terme pour dénoncer l'égoïsme, l'égo-ventripotent. L'égo-ventripotent qui s'assoit sur ses avoirs ou qui s'assoit sur son identité unique, pure. Ben, aujourd'hui, c'est ça qu'on voit triompher.
Sur tous les bords politiques ?
Ben, écoutez, regardez le monde, comment il se... Aujourd'hui, il est très difficile d'affirmer la préférabilité d'autrui. Autrui, c'est l'ennemi. C'est celui qui vient m'envahir, c'est celui qu'il faut chasser, c'est celui qu'il faut renvoyer chez lui, c'est celui qu'il faut maîtriser et mépriser en même temps.
À gauche aussi ?
Ben, à gauche, il n'y a plus la même... En gros, pour le dire de façon la plus simple possible, la pensée de Jankélévitch, la pensée de Lévinas, la pensée de Derrida deviennent de plus en plus inaudibles.
Même si elles sont utilisées. Vous savez à quel point Derrida est surutilisé à gauche.
Même si elles sont utilisées, bien sûr, même si elles sont utilisées. Comment voulez-vous, dans le monde actuel...
Que vous voulez dire que l'égoïsme de gauche, c'est quoi ? Le ventripotent, c'est l'identité figée qu'on essaye de défendre contre ceux qui l'oppriment ?
Je ne me suis pas fait comprendre.
Oui.
Il faut que je sois gramscien, parce que Gramsci est quand même l'une de mes premiers amours. Gramsci parle du sens commun. Le sens commun, c'est cette sorte de pluie qui descend et qui devient pensée commune, qui descend des théories du droit, de la philosophie, de la religion, etc. Or, aujourd'hui, il y a une pensée, comment dirais-je, commune, qui fait que l'autre, l'étranger, n'est pas le bienvenu. Ça s'est diffusé partout. Ça s'est diffusé partout. L'autre n'est plus le bienvenu. L'autre n'est pas celui par lequel je m'enrichis. Je m'enrichis moi-même. Je m'enrichis par mes propres forces. Et je pense qu'à gauche, on n'a pas assez résisté à cette érosion des pensées altruiste. Parce que Jean Kelevitch, on l'a pas dit quand même, vous savez comment on l'appelait, comment les journaux titraient, le marcheur infatigable de la gauche. Jean Kelevitch n'a jamais raté une manifestation. Parce que précisément, nous parlons souvent de morale, mais Jean Kelevitch, c'est la justice, c'est la liberté, et il préférait la justice à la liberté. Et précisément parce qu'il y avait, c'était cohérent vis-à-vis de sa pensée, comme c'était cohérent vis-à-vis de ses engagements politiques pendant la résistance, quand même. Donc il y a une cohérence.
On en parlera beaucoup demain de ses engagements et de son rapport à l'action. Frédéric Worms.
Oui, je voudrais réagir parce que j'entends dans la voix de Robert Maggiori quelque chose qui rappelle Jean Kelevitch et qui revient aujourd'hui malgré tout chez les jeunes lecteurs de Jean Kelevitch, Laure Barillas, Pierre Alban, Guinfolo, Gutkin et quelques autres et que j'ai essayé de défendre. Il y a eu un colloque, il se trouve à Coimbra au Portugal récemment sur Jean Kelevitch. Ça prouve que c'est très vivant. Et ce que l'on entend dans ce que Robert vient de dire, c'est ce qui fait le point commun avec Jean Kelevitch, c'est la capacité à s'indigner, à s'exclamer. Moi, je pense que chez Jean Kelevitch, la polarité est grande et moi, j'ai essayé de dire à un moment que c'était l'émerveillement et l'indignation. Il s'émerveille devant chaque printemps comme si c'était magique à chaque fois, mais c'est pourtant à chaque fois. Eh ben, c'est quand même de l'émerveillement. C'est ce qu'il dit aussi à Guy Suarez dans ce livre dont on a réédité la préface, L'éblouissement Jean Kelevitch. Guy Suarez, à qui je rends hommage, qui était fasciné par la mort. Mais c'est aussi l'indignation. Et la capacité à s'indigner de nouveau des injustices primaires. C'est là que Jean Kelevitch est nécessaire aujourd'hui. À Coimbra, moi, j'ai essayé de montrer que nous sommes tous aujourd'hui sidérés. Sidérés par l'écroulement du monde, l'écroulement des valeurs, l'écroulement des normes morales de base, effectivement, et le retour des fascistes. Que dirait Jean Kelevitch aujourd'hui ? Il s'indignerait, mais il s'indignerait en nous donnant des boussoles. Parce qu'en fait, la sidération, c'est l'étonnement sans repère. C'est-à-dire, c'est vraiment, on est à tel point sidéré que nos repères même s'effondrent. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On est bombardé par la sidération. Et Jean Kelevitch réintroduirait la surprise avec un contenu. Avec pourquoi on doit être indigné, pourquoi on ne doit pas lâcher ceci et cela. Et donc, il faut remettre l'étonnement contre la sidération. La surprise aussi, j'évoquais ce livre de Valérie Zenati qui reprend Jean Kelevitch très profondément, mais il y a aussi l'indignation et l'émerveillement. Donc, il faut être émerveillé par ce qui est merveilleux. Et donc, il faut faire de la musique, il faut faire de la philosophie, il faut être dans la joie. Pardon, quand même, on ne peut pas terminer sans la joie.
Bien sûr.
Mais par contre, le négatif, Jean Kelevitch ne constate pas le négatif en disant « Tiens, il y a du négatif ». Ben non, il s'indigne. Et c'est l'exclamation qui prouve que l'instant, d'ailleurs, n'est pas seulement une chose qui nous advient, mais une rencontre entre nous et le monde. Et l'instant, c'est l'exclamation de quelqu'un qui est surpris par ce qui lui arrive dans l'instant même. Et cette indignation, ben oui, aujourd'hui, il faut la réveiller, mais surtout lui donner un contenu, parce que je pense que, justement, chacun sent qu'on est sidéré, et qu'il ne faut pas juste mettre une indignation générale, « Oh là là, c'est pas bien !» Il faut décrire très précisément la gravité de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et là, Jean Kelevitch peut vraiment nous aider. Évidemment, il fait partie de celles et ceux, à mon avis, dont on se dit constamment, presque tous les matins, en ouvrant la radio, que dirait-il s'il entendait cela ? Moi, j'en ai quelques-uns, des repères comme ça. Moi, je pense toujours que quand penser, c'est penser à quelqu'un. Mais c'est penser à ce qu'il dirait, ce qu'il ferait. Évidemment, il serait peut-être dans la rue, mais il n'y a plus. Peut-être il aurait été dans la rue le 11 janvier 2015 en disant « Je suis Charlie ». Il aurait dit « Je suis Charlie ». Il aurait dit sans doute... Il aurait manifesté devant tel ou tel, et sans doute devant plus d'un crime aujourd'hui, ici ou là. Donc, que dirait-il aujourd'hui ? C'est normal que nous y pensions, mais il n'est plus là, c'est la réalité de sa disparition. Hein. Le livre de Guy Suarez commence par l'enterrement de Jean Kelevitch. Il est allé à l'enterrement, sans doute peut-être Robert y était aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, la réalité de sa disparition ne nous interdit pas, nous oblige même à nous demander ce qu'il dirait, et peut-être à dire aujourd'hui, bah, saisissons-nous de Jean Kelevitch, comme le Robert, je remercie pour cette semaine Jean Kelevitchienne, parce qu'il faut se revenir aux sources de nos exclamations.
L'indignation, en même temps, n'est pas,
pas, n'importe laquelle,
n'est pas morte. L'indignation est presque partout.
L'indignation seule.
Ah, oui, voilà.
C'était un triptyque. L'indignation, le constat notionnel et l'action.
Oui,
bien sûr.
Parce que l'un sans l'autre, oui, ça ne signifie pas. L'action toute seule, elle peut être de terrorisme.
Oui, mais il y a des gens qui s'indignent même plus.
Oui,
ils s'indignent plus des camps de la mort, ça ne s'y reprend même plus. Il faut commencer par être l'indignation.
Et c'est ce qu'il disait toujours. Ah, d'abord l'indignation, ensuite le constat ou l'étude, comment ça s'est passé, puis ensuite l'action.
Parce que ceux qui ne s'indignent plus, les bourgeois qui s'étonnent plus de rien.
Ce qui me sidère un peu, c'est justement qu'il n'y a plus cette capacité morale d'indignation. Ouais. Et que les choses passent de façon neutre, en provoquant juste une petite moue de dégoût, et ensuite on passe à autre chose. Et je crois que, enfin, c'est trop tôt pour parler ici, ou trop tard, pour les sites de l'action des réseaux sociaux, de ce qu'ils ont provoqué dans l'enfermement de soi, ou dans l'enfermement de l'entre-soi, du chez-soi. C'est, on ne parle qu'avec ceux qui sont d'accord avec nous, cette diffusion. Donc moi je suis d'accord pour qu'effectivement on puisse chaque matin effectivement relire une page de Jean Kelevitch. Parce que non seulement il avive notre joie de vivre, parce que l'entendre, ça donne pas seulement envie de philosopher, ça donne envie de se lancer dans la rue, de hurler et de crier de joie. Parce que c'est quand même une philosophie de l'amour. De l'amour au sens où nous l'avons dit aussi hier, c'est une philosophie de l'enthousiasme amoureux, de l'aventure amoureuse. Mais derrière cela, c'est pas une question de couple, c'est une question de, comment dirais-je, politique, c'est une question sociale.
Oui, alors ça c'est...
De l'amour à la solidarité, de la solidarité à la justice.
Avec cette continuité dans laquelle il croit et qui est magnifique. Mais vous savez aussi comme moi qu'il y a des penseurs des choses politiques qui disent qu'il faut aborder celle-ci avec d'autres catégories que celle de l'amour. C'est une des grandes thèses de Hannah Arendt, on le lui a assez reproché. Que l'indignation morale ne crée pas d'elle-même tout de suite une indignation politique, et une action et un processus politique. Donc peut-être que la morale et l'amour, nous avons encore tout cela en nous, mais peut-être que ça ne suffit pas en ce moment pour... un propos et une action politique ferme, clair, solidaire.
Oui, c'est possible qu'il n'y ait pas une pensée politique chez Jean Kelevitch assez précise. Et c'est vraiment, je pense, peut-être même un creux assumé dans sa pensée. Peut-être cette obstination à s'accrocher à la morale est la base d'une pensée politique, malgré tout, hein, de certains refus et de certains repères. Hein, c'est quand même très important. Mais de fait, penser ce qui peut nous éviter le mal politique, comment assumer le désaccord, une société divisée, comme le dit Claude Lefort, comment construire des repères républicains, démocratiques, comment construire des institutions. On ne trouvera peut-être pas ça, en effet, chez Jean Kelevitch. Par contre, et c'est vrai que c'est... Voilà, il faut admettre, hein, y a comme ça des grandes pensées qui laissent des places ouvertes en creux. Mais il y a des... Aussi, je pense que malgré tout, le lien entre politique et morale est quand même absolument fondamental et qu'il a absolument raison de nous dire il faut juger de la politique selon la morale. Je pense quand même que ça reste aujourd'hui la seule réponse à la force et à la guerre.
Vous êtes d'accord là-dessus ?
Oui, entièrement d'accord.
Robert Madian.
Entièrement d'accord. Et je même, j'irais même plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique... Elle a oublié la morale. Or, rétablir la morale, c'est pas faire du moralisme.
Exactement, ouais.
C'est justement fonder une politique sur ce que nous disions, c'est-à-dire sur l'autre, sur l'accueil de l'autre.
Et sur les refus, et sur des négatifs. Surtout sur le refus de son non-accueil.
Qu'est-ce que tu sais que le refus, c'est un des derniers cours de Jean Kelevitch ?
Le refus ?
Oui.
Non, je savais pas.
Et moi, j'ai les notes.
Il faut le publier, alors.
Le refus.
Et c'est important, ça, ce texte.
Ben oui, c'est important, le refus.
Refuser
les enfermements, quoi.
Bergson disait, l'intuition, c'est d'abord l'intuition négative, c'est ce que je ne peux pas accepter, ce avec quoi je ne suis absolument pas d'accord. Par exemple, que le temps soit de l'espace, ben non. Ce non, cette philosophie du non qui est commune avec Bachelard. Hein,
avec Bachelard.
Et c'est la grande leçon du cœur du XXe siècle. Il y a des choses à quoi il faut dire non. Et d'une certaine façon, oui, ça ne suffit pas parce que... c'est vrai que je pense que... Il y a plus une philosophie morale qu'une politique. Il n'y a pas non plus de philosophie de l'histoire, au fond. peut-être, chez Vladimir Jankélévitch, mais c'est quand même une boussole.
En tout cas, une chose est assez belle et sans doute fidèle à lui, c'est qu'on a commencé par un premier épisode sur l'amour à propos de Jankélévitch. Aujourd'hui, nous parlons du temps, derrière il y a le problème de la mort. Et spontanément, vous allez vers la question politique. Et demain, nous parlerons d'elle, de l'action, etc. Donc, il y a quelque chose qui converge, en tout cas pour nous aujourd'hui, vers cet enjeu.
Le temps des yo-yo est désaccordé. J'ai mis mon banjo au temps des yé-yé. Le temps des yo-yo, c'était l'andante. C'est l'andantino, le temps des yé-yé. S'il me faut taire ma mélancolie, pourquoi en faire une maladie? Le temps des yo-yo tourne ses feuillets. Voici au verso le temps des yé-yé. Au temps des yo-yo, déjà je t'aimais. Je t'aime encore autant et tu le sais. Des yo-yo nous aura bercé. Voici au berceau le temps des yé-yé.
Et nous avons diffusé le Serge Gainsbourg, peut-être le plus poétique, celui qui a écrit cette chanson « Le temps des yo-yo » en 1964. Que reste-t-il des yo-yo, nostalgiquement, au moment du temps des yé-yé ? Pardon, ça vous paraîtra peut-être un peu prosaïque, mais au fond, pour Florian Kélévitch, c'est possible. Je voudrais maintenant vous faire entendre autre chose. Il y a une opération de fin d'année de France Culture qui s'appelle « Nos grandes voix, paroles d'hier pour penser demain ». Voici un extrait de Paul Virilio, penseur majeur du XXe siècle, qui, paraît-il, a été auditeur libre de Jean Kélévitch qui nous occupe cette semaine.
Nous vivons en ce moment l'instantanéisme, la simultanéité, l'ubiquité, etc. Font que nous vivons l'instant et non plus le présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner en dehors du contrôle, possible ou non, de l'instant. Les choses se jouent pour l'essentiel dans l'instantanéité d'un temps machine. L'homme est obligé de suivre, et donc le présent, les 24 heures, la vie privée, la vie quotidienne est dépassée. Les saisons, les mois. Nous avons vécu avec la révolution industrielle la semaine, les 40 heures, etc. Or, aujourd'hui, la notion de journalier même est dépassée. Et donc, nous sommes en train d'affronter, d'emboutir le mur du temps.
C'était donc Paul Virilio, cette opération France Culture qui diffuse un certain nombre de grandes voix-paroles d'hier pour penser demain en cette fin d'année 2025. Je laisserai les auditeurs faire les liens ou ne pas les faire avec certains aspects de Jean Kélévitch. Merci beaucoup Robert Maggiori et Frédéric Worms. Vos travaux sont nombreux, ils sont précisés sur le site de notre émission. Je trouve que vous avez donné beaucoup de chair à la mémoire de Jean Kélévitch. Hier déjà, vous-même Robert Maggiori, aujourd'hui vous deux, Robert Maggiori, Frédéric Worms. Merci. Alors, votre chronique habituelle, Frédéric Worms, est disponible sur notre site et sur l'appli Radio France. Vous explorez cette semaine la question du retour au texte. Je vous dis à demain pour la suite de cette série sur Jean Kelevich. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mellet et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Feulpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Armance Bourquin. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.